France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des débuts prometteurs pour les Bleus qui ont battu l'Allemagne 1-0 hier soir à Munich. Premier match de l'Euro pour les joueurs français qui ont manqué de réussite. Mais la ferveur était bien réelle, Agnès, dans l'Hexagone, pour cette première soirée de foot partagée. Enfin, on voit ça après les autres titres.
Et une autre rencontre au sommet aujourd'hui à Genève. Joe Biden, Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser les tensions. Nous serons en direct de Jérusalem où le nouveau gouvernement doit faire face à de nouveaux affrontements avec le Hamas. La lettre posthume d'Alain Coq à Emmanuel Macron après son suicide assisté hier en Suisse. Le bâtiment manque de matériaux alors que s'amorce la reprise. Et puis si vous avez choisi de rire lorsque l'on vous demande de dropper votre 06 avant de filer en conf-call, voici un film qui est fait pour vous.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, une comédienne intense, puissante, sociétaire de la comédie française, elle vient nous présenter un film où elle a le rôle principal, La Nuée de Juste Philippot, un conte horrifique, ultra flippant dans le monde paysan, fascinant, flippant, je vous assure, j'ai mort de trouille, ultra primé dans les festivals, ouais. Suliane Brahim est notre invitée à 7h50, retenez bien son nom.
Et tout à l'heure Léa, à 8h20, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec l'écrivain et éditorialiste au Point, Franz-Olivier Gisbert. Il publie Bernard Tapie, Leçon de vie, d'amour et de mort aux éditions Presse de la Cité. Le Standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
Ça commence comme ça, par une victoire, courte mais nette. Les Bleus s'imposent 1-0 face à l'Allemagne à Munich pour leur premier match dans cet Euro de foot. Un but du défenseur allemand Mats Hummels contre son camp. Des Bleus pas forcément flamboyants mais solides et prometteurs. Cédric Guillou.
On a retrouvé l'équipe de France, version Coupe du Monde 2018 hier soir. Solide défensivement, dangereuse en contre, disciplinée tactiquement. Et ça n'a pas surpris le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps.
Le groupe se connaît. Quand vous prenez le bloc défensif, ce sont les mêmes hein, qui étaient là depuis la Coupe du Monde. Les quatre défenseurs, Hugo, Paul et Angie étaient là aussi. Il y a des habitudes, des automatismes. Le groupe devait être prêt. Il était prêt sur ce match-là.
Cette victoire porte la signature du sens collectif à l'image de Paul Pogba en mode leader hier soir, comme il l'était lors du Mondial en Russie.
On a l'habitude de ça, c'est les grandes compétitions, c'est là où on doit être présent, c'est là où on doit montrer encore et prouver le statut qu'on a. On veut continuer comme ça.
Et Didier Deschamps d'ajouter.
Il faut qu'on garde cette force-là, cette force collective. Au-delà de la qualité du talent, c'est la base, c'est le socle solide.
La recette qui avait permis aux Bleus de triompher en Russie et qui a joliment refait surface hier soir à Munich.
Une victoire qui permet à la France de prendre la deuxième place du groupe F derrière le Portugal qui avait dominé la Hongrie en début de soirée 3-0 dont un doublé de Ronaldo. Voilà pour l'aspect purement sportif, mais on retiendra aussi de cette soirée ce parfum d'été et de joie partagée avec ses terrasses bondées. Delphine Evenou a suivi la rencontre dans un bar du quartier Pigalle à Paris. Reportage.
Dans la salle, les écrans et les maillots des Bleus sont plus nombreux que les masques. Et le couvre-feu n'inquiète pas plus que cela.
Il y a le ministre qui a annoncé qu'il y avait de la clémence hein, ce soir pour ceux qui rentrent un peu tard. Ouais, de la mansuétude.
Vibrer ensemble dans une ambiance survoltée plutôt qu'à la maison, ses copains n'ont pas hésité.
Et à un côté, se retrouver ensemble, ça fait du bien.
En dehors du foot, c'est agréable de se retrouver dans un bar, de boire des bières, d'être avec les amis. C'est ce que tout le monde attendait depuis quelques mois. On est un peu plus serein. Et il ne faut pas se laisser aller non plus.
Le sixième pichet de bière arrive sur la table.
Allez Hugo ! Ah mais c'est fini là ! Ça y a 8 minutes d'arrêt de jeu là.
22h55, coup de sifflet final.
Et ben c'était pas passionnant comme match. Et l'arbitrage pas ouf quand même.
Analyse du match, la France assez sereine. On marque tôt, les Allemands nous inquiètent pas trop. Donc à voir sur la suite, mais y a quelque chose de sympa qui se profile.
Dans la rue, la ferveur est là, mais courte. La police montre les gyrophares à distance. Les bars du quartier ferment à vitesse grand V.
Tout le monde est parti à l'heure, impeccable. Couvre feu respecté. Une belle soirée, victoire d'équipe de France, tout va bien.
Pour le prochain match, samedi face à la Hongrie à 15h, la question du couvre-feu ne se posera pas.
Delphine Avenou et à suivre aussi samedi, Portugal-Allemagne, ce sera à 21h.
Il est 7h05, une rencontre États-Unis-Russie aujourd'hui à Genève.
Un sommet hautement diplomatique pour la dernière étape du voyage en Europe de Joe Biden, qui va donc s'entretenir avec Vladimir Poutine, alors que les relations entre les deux pays se sont considérablement considérablement tendue ces derniers mois. Correspondance à Washington, signé Grégory Phillips.
L'invitation a été lancée par la Maison Blanche mi-avril avec un mot-clé, la désescalade. Il faut dire qu'un mois plus tôt, à la question « Pensez-vous que Poutine est un tueur ?», Joe Biden répondait ceci sur ABC. Oui, je le pense. Le maître du Kremlin avait dès le lendemain ironisé avec cette expression enfantine. C'est le premier qui dit qui y est. Puis Russes et Américains ont continué à échanger sur la possibilité d'un sommet pour finalement retenir cette date du 16 juin à Genève. Ces derniers jours, auprès de ses alliés de l'OTAN, Biden a expliqué qu'il dirait ses quatre vérités à Poutine, notamment sur les cyberattaques en provenance de Moscou, sur le sort de l'opposant Navalny ou encore la situation en Ukraine et en Biélorussie avec des lignes rouges à ne pas franchir, mais en reconnaissant aussi des qualités à son homologue russe. Je l'ai déjà rencontré, il est brillant, il est dur, comme on dit dans le sport, c'est un adversaire sérieux. Un adversaire auquel le président américain a donc accordé un sommet quasiment en tête-à-tête. Les deux dirigeants seront au moment le plus fort de la discussion, entourés seulement de leur ministre des Affaires étrangères. Pour Poutine, c'est une reconnaissance, pour Biden, un moyen de tenter d'apaiser un peu les tensions. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Des tensions qui ont du mal à s'apaiser entre Israël et Gaza. Moins d'un mois après le cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'affrontements meurtriers, l'armée israélienne a procédé cette nuit à de nouveaux tirs contre la bande de Gaza en représailles au lancement de ballons incendiaires. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, c'est en fait la marche des drapeaux organisée par l'extrême droite israélienne hier à Jérusalem qui a provoqué donc ces nouvelles tensions.
Oui, ce défilé nationaliste hier autour de la vieille ville, interrompu le 10 mai dernier par des tirs de roquettes du Hamas sur Jérusalem. Le mouvement islamiste à Gaza avait menacé de réagir une nouvelle fois hier si la marche, parfois au relent raciste, avait lieu. Eh bien, il l'a fait en lançant des ballons explosifs contre le sud d'incendiaires qui ont provoqué 26 incendies. Le tout nouveau gouvernement de Naftali Bennett a donc fait ce qu'il avait annoncé, des ripostes volontairement disproportionnées. D'où cette série de bombardements aériens nocturnes qui ont provoqué les habituelles explosions, les boules de feu, les panaches de fumée noire, mais qui n'ont pas fait de victimes. Des sites militaires du Hamas ont été visés sur place à Gaza. Au-delà de l'opérationnel, les nouveaux dirigeants israéliens veulent afficher leur fermeté. Pas question d'apparaître faible ou laxiste, comme les accuse l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Merci Frédéric Mettezo, en direct ce matin de Jérusalem pour France Inter. Rémi Daillé et sa famille sont finalement arrivés en France ce matin après avoir été expulsés de Malaisie. L'homme devrait être transféré immédiatement à Nancy et présenté à la justice qui enquête sur le rôle que cette figure des milieux complotistes aurait pu jouer dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier dans les Vosges. Retour en Suisse où Alain Coq s'est éteint hier en fin de matinée. Cet homme de 58 ans atteint d'une maladie orpheline incurable et douloureuse est mort par suicide assisté. Alain Coq qui a laissé une toute dernière lettre adressée au chef de l'État, Véronique Julia.
Tout s'est passé très vite. Alain Coq a quitté la France tôt hier matin. Il est arrivé à Berne en Suisse en milieu de matinée. Une heure plus tard, à 11h20, il était mort. Conformément aux règles en Suisse, c'est lui-même qui a déclenché la perfusion létale. Il était serein et pressé de mourir, explique Jean-Luc Romero, le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui était à ses côtés hier.
J'ai trouvé ça d'une grande sérénité, avec tant d'humanité, tant de bienveillance. Enfin, franchement, c'est formidable pour la personne qui part, qui est enfin libérée, mais c'est aussi formidable pour ceux qui l'accompagnent. Parce que moi, j'ai beau être un militant, c'est jamais facile.
Épilogue de 35 ans de douleurs quotidiennes et d'un an de combat pour obtenir qu'on lui accorde en France le droit de mourir. En juillet dernier, Alain Coq avait sollicité Emmanuel Macron. Devant son refus, il avait fait ensuite deux grèves des soins auxquelles il avait dû renoncer tant les souffrances étaient intolérables. La loi Leonetti sur la sédation profonde et continue ne s'appliquait pas pour lui car malgré les souffrances, il n'était pas considéré comme en fin de vie. On ne lui a pas donné de solution en France. Encore un qui a dû choisir l'exil, commente François Lambert, l'un de ses soutiens.
Ça montre que en France, tout reste à faire au niveau de la fin de vie. La loi actuelle n'aide absolument pas à faire évoluer les choses, bien au contraire, elle a institutionnalisé un certain mépris de la souffrance des gens.
Dans une lettre posthume adressée au chef de l'État, Alain Coq dénonce un manque de courage politique sur la question. Combien de Français doivent-ils ainsi s'exiler chaque année? Sans doute des dizaines. Alain Coq a bénéficié du soutien financier d'une association qui a financé les 8 à 10 000 euros nécessaires.
La crise du Covid, et cela faisait 8 mois que le nombre de malades en réanimation n'avait pas été aussi bas. On est repassé hier sous la barre des 2 000 et 3 235 nouveaux cas cas recensés au cours des dernières 24 heures, c'est moitié moins que mardi dernier. Et puis c'est une conséquence de la crise sanitaire, la pénurie de matières premières dans le bâtiment, notamment de bois et d'acier. Après des mois de production ralentie, la demande est très forte jusqu'aux États-Unis et en Chine. Résultat, les délais de livraison s'allongent et les prix s'envolent. Illustration de cette crise dans le nord de la Franche-Comté avec Christophe Beck.
C'est la rançon de la reprise, outre-Atlantique, mais aussi en Asie, particulièrement musclée. Francis Vouélin, président de la CAPEB, en Bourgogne-Franche-Comté, le syndicat des artisans du bâtiment.
La Chine redémarre plein pot, donc nous, on se retrouve, comme chez PSA, où ils ont des manques de matériaux, nous, on a exactement les mêmes problématiques.
Des matériaux qui flambent, bouleversant les devis des artisans. Marc Gentine, chauffagiste à Bavant.
Quasiment tous les matériaux ont augmenté, tous les nos fournisseurs ont augmenté en deux mois, là. C'est la
De nombreux matériaux sont concernés, l'acier, le bois, mais pas uniquement. Yves Dufour, plaquiste à Nomet.
La plaque de plâtre, les ossatures de plaque de plâtre, les complexes isolants. Si on ne s'y prend pas bien en avance, on a bien du mal d'avoir nos matériaux.
Pour certains artisans, ça pose de gros problèmes de trésorerie. Francis Vouélin.
Et le pire, c'est que nous, on a des chantiers qui sont commencés, mais qu'on ne peut pas facturer complètement parce que le problème, notre chantier n'est pas terminé, on ne reçoit pas les fournitures.
La CAPEB redoute des mesures de chômage partiel, voire des fermetures d'entreprises.
Si vous avez votre trésorerie qui est bloquée sur 4-5 chantiers et que les fournitures n'arrivent pas, ça peut mettre en péril des entreprises.
La CAPEB qui réclame de nouvelles règles, notamment qui permettraient aux artisans de facturer leur chantier par étapes.
Christophe Beck de France Bleu Belfort, Montbéliard, les orages après les fortes chaleurs. Météo France place ce matin 25 départements de l'ouest de la France en vigilance orange. Enfin, c'est mercredi, c'est jour des sorties ciné et l'on retrouve avec un plaisir non dissimulé les frères Podalydès, Bruno à la réalisation et Denis devant la caméra, dont le rôle d'un quinca cherchant du travail dans le monde merveilleux de la Startup Nation. En un mot, Corinne Pellissier, jubilatoire.
Alors, quelles sont vos qualités principales ?
Je me bonifie avec le temps.
Pas évident après 50 ans de retrouver du travail lorsqu'on ne maîtrise ni les codes ni le vocabulaire des startups, mais il s'accroche. Denis Podalydès, dont le rôle d'Alexandre, est un ancien cadre au chômage qui, pour garder sa femme, doit lui prouver qu'il peut se reprendre en main tout en s'occupant des enfants. Un défi qui va le conduire à postuler dans une entreprise où les salariés, comme chez Google, font des conf-calls en jouant au baby-foot, sont dispo H24 et n'oublient jamais de dropper leur 06 à un client. Pas vraiment le profil d'Alexandre, qui pourtant va s'imposer à l'issue d'un entretien aussi drôle que cruel.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement.
Mais c'est quoi le poste ?
Reacting process.
T'as pas d'enfant en bas âge, hein ? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se tire de la boîte, c'est la philosophie de la maison.
Car sous couvert d'humour et de poésie, les deux Alfred brossent un portrait des plus violents de notre société. L'ubérisation, la place des quinquas, l'omniprésence aussi de la technologie, tout y passe. On rit beaucoup des mésaventures de Sandrine Kiberlin et Bruno Podalydès qui complètent le casting. Mais le constat reste amer dans un monde où les injonctions de résultats l'emportent toujours sur l'individu. Le secret pour s'en sortir, avoir l'air moderne et connecté.
J'ai un message de ma voiture. Quoi, je suis partie me brancher à la borne. Mais quelle borne ? Mais qu'est-ce est trop conne cette bagnole.
Ou comme les personnages, décider de se rebeller.
Les deux Alfred, c'est donc un film France Inter.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom en Algérie aujourd'hui. Le mouvement de contestation Irak est-il terminé ?